Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous avons commencé la semaine dernière et nous allons continuer cette semaine et terminer cette brève série. Et c'est bien que nous comprenions exactement ce qui est impliqué et quelle est la forme ou le modèle que le Nouveau Testament établit pour l'Église. Au cours des derniers mois, nous avons parlé de la relation qui unit les croyants les uns aux autres, au sein du corps du Christ. C'est l'Église invisible, et j'aimerais que vous saisissiez la différence. Nous avons parlé de la manière dont les chrétiens sont liés les uns aux autres, d'une manière invisible. À présent, nous parlons, non pas de l'Église invisible, du corps et de notre ministère des dons auprès les uns des autres, mais davantage du modèle et de la forme de l'Église visible. Lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur, lorsque nous venons en cet endroit, que nous nous retrouvons en tant que croyants, quelle forme devons-nous avoir? Quel modèle le Nouveau Testament donne-t-il pour l'Église qui se rassemble de manière visible? C'est ce que nous étudions dans cette série. L'Église invisible, le ministère des dons spirituels, la communion du corps et tous ces aspects que nous avons abordés en lien avec la série il y a de cela quelques mois. Maintenant, vous savez que nous sommes l'Église de Christ. Chaque croyant fait partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Tous ceux qui aiment Jésus-Christ sont ceux pour qui il a payé la rançon, ses rachetés, ses enfants assemblés. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes un par notre positionnement. De par le fait d'être baptisés dans le corps par l'Esprit de Dieu, nous sommes un organisme vivant. Nous sommes une communauté de ceux que Jésus-Christ a rachetés. Nous sommes un corps mystérieux, dit Paul, un groupe invisible. C'est-à-dire que le monde ne peut pas nous voir. Nous ne nous montrons pas toujours à l'extérieur. Nous ne sommes pas toujours marqués par une étiquette qui nous identifierait en tant qu'enfants de Dieu. Et comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, quelquefois, nous ne savons même pas nous-mêmes qui est authentique et qui ne l'est pas. Et nous faisons donc très attention, et nous assurons de prier, d'étudier et d'analyser la vie d'une personne aussi soigneusement que nous le pouvons, avant de la mettre en position de leadership chrétien pour déterminer si elle est authentique ou pas, puisque nous savons que Satan sème livré parmi le blé. Christ a donc conçu l'Église comme un corps invisible de ceux qu'il aime, mais il a également prévu qu'elle soit visible pour le monde. Vous avez écouté le témoignage d'un philosophe païen, qui a vu en l'Église quelque chose de beau et d'unique. C'est le plan de Dieu que l'Église invisible devienne visible, et par sa visibilité collective, soit un témoignage vivant de la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde. Sa stratégie, c'est que l'Église visible ne correspond pas toujours à l'Église invisible, et l'Église invisible n'est pas toujours visible. Maintenant, si vous parvenez à démêler cela, je crois que vous comprendrez ce que je veux dire. Nous qui sommes véritablement croyants, nous ne nous présentons pas toujours comme tels, et quelquefois, ceux qui semblent être croyants ne le sont pas vraiment. Et par conséquent, l'image renvoyée au monde est mitigée et floue, de manière diabolique. Cela a toujours été le plan de Satan. Mais en dépit des efforts de Satan à rendre la question trouble, l'Église est appelée à être visible. Il y a beaucoup de gens qui affirment aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'Église, qu'on n'a pas besoin de l'Église locale. On n'a pas besoin d'un bâtiment au coin de la rue. On n'a pas besoin de se rassembler. On devrait être spontané, se réunir dans un foyer, dans la cambrousse. Je crois que Dieu a conçu l'Église pour qu'elle soit un témoignage visible pour le monde lorsqu'elle se rassemble. Comme mentionné le matin de dimanche passé, lorsque vous vous êtes levé ce matin pour venir en ce lieu, vous étiez un témoignage vivant du Christ vivant. C'est le jour de la résurrection du Seigneur, et je crois au dessein de Dieu. Il nous a appelés ensemble, et étant donné la confusion et l'amalgame que Satan a occasionné, il nous est demandé que notre témoignage soit d'autant plus clair. Nous devons être clairs en termes de notre témoignage pour pouvoir briller à travers la confusion. Maintenant, quelle est la bonne forme? Quel modèle est-ce que l'Église doit suivre en ce qui concerne son adoration, sa communion et ses rassemblements pour l'étude de la parole? Eh bien, nous avons vu la semaine dernière, tout d'abord, l'histoire de l'Église en regardant la première Église, la fondation de l'Église, l'Église de Jérusalem. Nous avons vu cette toute première assemblée locale qui s'est formée le jour de la Pentecôte. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une très grande assemblée. 3000 personnes se sont ajoutées à eux le premier jour. Plusieurs parmi eux sont partis, mais elle a continué de grandir jour après jour, nous dit Acte 2. Cette Église était une Église en pleine croissance, une Église florissante, une Église du Saint-Esprit, une Église productive, une Église bénie de Dieu, une Église dynamique et une Église qui évangélisait. Et nous l'avons examinée attentivement dans le but d'identifier les ingrédients qui faisaient qu'elle soit ce genre d'Église. Nous avons trouvé qu'il y avait principalement quatre choses, plus une autre chose, qui ont fait d'elle ce qu'elle devait être. Elle n'était impliquée que dans quatre choses à vrai dire. Étudier la doctrine des apôtres, la communion, la fraction du pain autour de la table de communion, la prière, ces quatre choses. Tel était le début et la fin du programme de la première Église. Et la cinquième chose, c'est que tout le monde allait partout, parlant de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de ce que l'Église est aujourd'hui, nous sommes contraints de réaliser que l'Église aujourd'hui est très différente, à plusieurs égards. Beaucoup de gens ont décidé que pour avoir une Église efficace, il fallait un centre de divertissement, avec de super programmes et des gadgets. Il faut séparer toutes les personnes non engagées et prévoir des programmes pour elles, en les laissant à l'écart. Mais les choses ne se passaient pas ainsi au sein de l'Église primitive. Ils avaient quatre choses. Ils apprenaient la doctrine. Ils avaient la communion. Ils priaient et ils rompaient le pain. Et comme conséquence, tout le monde allait partout, prêchant l'Évangile. Et c'est véritablement cela le début et la fin de ce que l'Église est supposée être pendant son temps de rassemblement et quand elle vient ensemble. Cette Église était une Église apprenante. C'était une Église qui communiait. C'était une Église qui priait. Et c'était une Église qui se réunissait à la table du Seigneur pour partager, en souvenir de sa mort. Et puis c'était une Église qui allait dans le monde communiquer sa foi. Et les effets étaient fantastiques. La Bible nous dit dans Actes 2, 47, qu'ils avaient la faveur avec tous. Et chaque jour, des gens s'ajoutaient à l'Église. L'Église visible de Jérusalem avait un impact. Elle avait un impact dynamique. C'était une assemblée locale de croyants, rassemblés, se retrouvant le premier jour de la semaine pour l'étude de la parole de Dieu, pour la communion, la rupture du pain et la prière. Et ensuite, quittant cet endroit après le premier jour de la semaine, ils continuaient à se retrouver ensemble, comme ils pouvaient au cours de la semaine. Lorsqu'ils n'étaient pas ensemble, ils étaient à l'extérieur, là où les pécheurs se trouvaient, communiquant Jésus-Christ. Les dirigeants de cette Église primitive, nous avons vu la semaine dernière, étaient les apôtres. Dieu leur a donné ce qu'il avait de meilleur pendant ces premières années, pour qu'ils soient solidement ancrés et enracinés. Et ensuite, et finalement, c'était le moment d'ordonner quelques diacres capables de gérer l'Église et permettre ainsi aux apôtres de passer à d'autres ministères. Et puis nous avons vu comment l'Église de Jérusalem a, après un certain nombre d'années, envoyé quelqu'un du nom de Barnabas à Antioche, qui a établi une autre Église là-bas. Et à partir de là, les Églises se sont mises à pousser partout dans les communautés locales. Comme nous le lisons à travers les lettres de Paul, nous voyons Paul adresser des lettres à diverses assemblées, se réunissant avec les quatre mêmes objectifs. Étudier la parole, communier, rompre le pain autour de la table du Seigneur, prier. Et puis le cinquième objectif supplémentaire, tout le monde qui va partout pour partager Christ. Vous dites, eh bien, c'est quoi la différence entre eux et nous? Eh bien, je pense que la différence est aussi simple que l'engagement. Ils étaient peut-être un peu plus près du feu, étant donné qu'ils étaient plus proches de l'époque de la vie du Christ et les révélations spécifiques de la puissance du Saint-Esprit dans les miracles et les signes et les prodiges. Quoi qu'il en soit, la différence se situe dans l'engagement personnel. Nous avons donc vu l'histoire de la fondation de l'Église. Puis, en second lieu, nous avons commencé à examiner le ministère de l'Église, et avec cela, nous sommes parvenus à 1 et 2 Timothée et Tite, et j'aimerais juste que vous ouvriez votre Bible à cet endroit, et que vous vous attardiez autour de 1 Timothée pendant quelques minutes. Nous allons réviser très rapidement et avancer. L'Église est donc supposée se dévouer à quatre choses. Elles sont fondamentales et constituent l'élan pour la cinquième qui vient s'ajouter, à savoir que chaque membre prêche Christ. Mais en plus de cela, il y a en 1 et 2 Timothée et Tite davantage d'informations sur la manière dont nous devons nous comporter à l'Église. Nous savons ce que l'Église est appelée à être. Nous l'avons vu à travers le modèle de l'Église de Jérusalem et les autres Églises. Et maintenant, nous voulons voir comment la forme de l'Église se dessine. Qu'est-ce que Paul établit comme modèle à suivre dans l'Église? Vous savez, c'est très intéressant lorsqu'on analyse les Églises à la lumière de la Bible, de constater qu'elles ne correspondent pas toujours au modèle. Lorsqu'on tente d'adopter un modèle biblique de l'Église, il n'y a qu'une forme de base. Et puis, il y a un grand nombre de domaines dans lesquels on peut tout bonnement prendre la direction qu'on désire. Et malheureusement, la plupart des Églises ont adopté cette zone où la Bible n'est pas très précise, et elle crée de grandes et immenses traditions qui se sont érigées au même niveau que la vérité biblique. Elles ne peuvent rien y changer. Cela fait qu'elles se retrouvent ainsi dans un moule qui est inadapté à leur époque. Très bien, le ministère de l'Église et le devoir fondamental de l'Église est l'enseignement de la saine doctrine. L'Église doit enseigner la doctrine saine. C'est pour cela que nous sommes tous là. Nous ne sommes pas là pour vous servir des platitudes. Nous ne sommes pas là pour vous offrir des programmes de musique. Nous ne sommes pas là pour proposer des divertissements pour vous, vos enfants, et préserver vos adolescents de la rue. Nous ne sommes pas là pour régler des problèmes familiaux à partir d'un point de vue analytique et psychologique. Nous ne sommes pas là pour vous fournir des conseils psychologiques. Nous sommes là pour vous enseigner la saine doctrine. C'est ça le ministère de l'Église, le début, le milieu et la fin. C'est ce dont il est question. Et tout ministère qui constitue moins qu'un effort concentré visant à enseigner la saine doctrine démarre sur une base non biblique. Nous sommes donc engagés, à l'Église de la Grâce, envers la saine doctrine de la parole de Dieu, et nous croyons que cela signifie l'enseigner de manière claire. Je vous ai donné un petit principe la semaine dernière, et je veux que vous vous en rappeliez. Regardez donc à 1 Timothée 4:13, et voici le modèle que l'apôtre Paul donne à Timothée sur la manière d'enseigner la saine doctrine. Voici un petit verset qui nous dit en quoi consiste la prédication explicative. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à... » Et voici le modèle de la prédication explicative, la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous trouvez là ce qui est véritablement impliqué dans un message explicatif. Vous le lisez, vous l'expliquez, c'est la doctrine. Et vous exhortez, vous l'appliquez. Ce sont les trois points de la prédication explicative. Lire le texte, expliquer le texte et appliquer le texte. Et c'est exactement ce qu'il a demandé à Timothée de faire. C'est la clé pour n'importe quel genre de ministère biblique. L'Église doit être occupée à enseigner la saine doctrine. Et la tragédie, c'est que l'Église fait absolument tout sauf cela. Et c'est impressionnant de parcourir le pays pour constater, d'église en église après église, qu'il y a une pénurie et une absence de la saine doctrine. 2 Timothée 2:2. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous sommes appelés à prêcher la saine doctrine. Timothée doit le faire, non pas seulement jusqu'à ce que Paul arrive, mais jusqu'à ce que Christ revienne. Tel est le modèle de l'Église. Ensuite, nous avons vu, non seulement le ministère fondamental, mais également le leadership de base, et nous sommes encore en train de réviser. Le leadership de base, ce sont ceux qui enseignent la saine doctrine et l'appliquent. L'Église doit l'enseigner. Le leadership fondamental, ce sont ceux qui l'enseignent et l'appliquent aux gens. Maintenant, il y a deux dirigeants, deux classes ou ordres de dirigeants conçus dans le Nouveau Testament pour l'Église. Tout d'abord les anciens. La semaine dernière, nous avons longuement examiné le ministère des anciens. Juste pour revoir quelques points, dans une Église, il y a toujours une pluralité d'anciens, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de dirigeants. Aucun homme ne constitue l'ancien en chef. Il n'existe pas d'animal qu'on appelle un ancien en chef. Il n'y en a aucun. Il n'existe personne qui gère l'Église. Cela est complètement contraire au principe scripturaire, selon lequel Dieu œuvre à travers la pensée collective des anciens dans l'Église. Il y a donc une pluralité d'anciens. Ils sont qualifiés par Dieu. Ils sont responsables devant Dieu. Ils ne sont pas responsables devant la congrégation. Ils ne rendent pas compte à un comité. Ils ne sont pas responsables devant un conseil d'administration ou un conseil de quoi que ce soit d'autre. Ils sont directement responsables devant Dieu pour diriger l'Église. Les membres ne dirigent pas l'Église. Ce sont les anciens qui dirigent l'Église. Les membres choisissent les anciens. Dans Actes, par exemple, chapitre 14, verset 21, nous lisons ceci. « Quand ils eurent évangélisé cette ville, il s'agit de Paul, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Observez à présent ceci. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, voilà comment ils les ordonnaient. Vous dites, comment est-ce que Dieu révèle à l'église qui les anciens sont pour que l'église puisse les ordonner? Après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Un ancien est recommandé au Seigneur, étant donné que c'est au Seigneur qu'il rendait compte. L'Église choisit ses anciens à travers la prière et le jeûne, déterminant dans son cœur sur qui le Seigneur a posé sa main, pour le leadership, au sein de cette Église. Les anciens ne sont pas choisis sur la base de leur connaissance du monde des affaires. Ils ne sont pas choisis en fonction de leurs moyens financiers. Ils ne sont pas choisis parce qu'ils ont une capacité innée à être des dirigeants. Ils sont choisis parce que Dieu a posé sa main sur eux et les a conçus pour le leadership de l'Église. Et ils sont donc choisis à travers la prière et le jeûne des membres, recommandés à Dieu, à qui ils rendent par conséquent des comptes. Maintenant, quelles sont les exigences pour un ancien? La semaine dernière, nous les avons vues telles que Paul les a données à Timothée. Cette fois-ci, j'aimerais que nous les voyions telles que Paul les a données à Tite. Tite 1:5. Paul donne à Tite, qui par ailleurs est en train de fonder des églises, et c'est pour cette raison que Timothée et Tite avaient besoin d'avoir toutes ces informations. Ils étaient occupés à implanter des églises partout, et ils avaient besoin de connaître l'ordre que Dieu voulait. Maintenant, dans Tite 1:5, nous avons la qualification pour un ancien. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il est là-bas pour mettre en place la forme de l'Église en Crète, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il est intéressant de noter que l'évangéliste ordonnait les anciens dans le Nouveau Testament. De nos jours, il n'y a aucun évangéliste dans les parages, en tout cas, presque personne qui soit un véritable évangéliste. Lorsque nous entendons le mot évangéliste, nous pensons à quelque chose qui est vraiment étranger, à l'évangéliste biblique. Un évangéliste biblique était quelqu'un qui implantait des églises, et ainsi cet évangéliste, Tite, doit ordonner des anciens dans chaque ville pour diriger l'église. Il s'agit de ceux qui sont chargés de diriger l'église. Je suis un ancien. Certaines des personnes que nous appelons entre guillemets « laïques » sont des anciens. Nous sommes au même niveau. Je ne suis au-dessus de personne. Je ne suis pas plus que qui que ce soit. Je ne suis le révérend de personne. Je ne suis pas le père de qui que ce soit. Je ne suis le sacré de personne. Je ne suis pas le saint de qui que ce soit. Je suis seulement moi, et c'est tout. Tout simplement, le bon vieux John. J'ai reçu de Dieu le privilège d'être un des anciens de cette Église. J'ai la responsabilité particulière d'être l'ancien qui enseigne, mais il s'agit d'un leadership collectif. Voici à présent les exigences. Verset 6. Et comme j'ai dit la semaine dernière, si vous ressentez devant Dieu que c'est le ministère auquel Dieu vous a appelé, et que vous vous qualifiez dans l'énergie du Saint-Esprit pour ceci. Nous aimerions savoir que c'est votre ressenti, et nous voudrions savoir si vous désirez ceci, étant donné que c'est une bonne chose de le désirer, comme Paul a dit. Donc, verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, et cela ne signifie pas parfait, évidemment, sinon nous serions tous disqualifiés. Cela signifie si quelqu'un n'a pas une grosse tâche sur sa vie, qui soit susceptible de faire l'objet des critiques de tout le monde, mari d'une seule femme. Et nous avons parlé de cela la dernière fois. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, vous connaissez l'une des qualifications d'un ancien. Ses enfants doivent être des croyants. Ses enfants doivent être croyants. Il doit donner la preuve d'avoir efficacement communiqué sa foi à sa propre famille. Les enfants d'un ancien doivent être croyants. Et ils ne doivent pas être indisciplinés. Je suis convaincu que mon père a combattu cette exigence particulière pendant des années. Un homme dont les enfants sont païens ne peut pas être désigné comme ancien. Ils doivent suivre la foi de leur père, avec une mesure de conduite pieuse. Certes, on ne s'attend pas à voir, vous savez, une sainteté totale en enfant, mais il faut une certaine mesure de conduite pieuse. Ensuite, il dit au verset 7, et ici il emploie le mot « évêque », qui, une fois de plus, est identique à « ancien ». Ceci décrit juste ses fonctions et non son poste. Il est un ancien. Son devoir consiste à fonctionner comme évêque. Évêque signifie « superviseur », car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Cela veut dire qu'il réalise qu'il est un intendant. Cela veut dire que rien ne lui appartient. Il gère les affaires de Dieu en faveur du corps de Christ. Qu'il ne soit ni arrogant, il n'est pas là pour se faire plaisir, ni colérique, ni adonné au vin. Souvenez-vous, je vous ai dit que cela signifiait qu'il ne s'attarde pas trop près de son vin. La seule chose qu'ils avaient la possibilité de boire à cette époque-là, c'était du vin. L'eau n'était pas potable. Lorsqu'on le buvait, on le buvait et on s'en allait. Si on était, vous savez, correct. Si on traînait un peu trop longtemps autour de la bouteille, c'était la preuve qu'on avait un problème. Ni adonné au vin, ni violent. Et ce terme violent signifie quelqu'un qui aime se servir de ses poings, pas ce genre d'homme, ni porter un gain déshonnête. Il ne doit pas courir après l'argent. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier. Cela signifie que c'est un type qui aime ouvrir sa maison et laisser entrer les étrangers. Si vous allez faire cela, si vous allez ouvrir votre maison, alors vous devrez garder votre maison en ordre, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'il dit qu'il devrait avoir des enfants croyants, et il devrait bien gérer sa maison. S'il est incapable de gérer sa propre maison, Paul dit à Timothée, comment peut-il gérer l'Église de Dieu? Il doit avoir une maison qu'on peut ouvrir à n'importe qui, pour qu'il voit en quoi consiste la vie chrétienne. Un amoureux de l'étranger. C'est le mot qui est traduit par hospitalité. Il aime recevoir les étrangers. Ami du bien, version Sommer, et le terme homme est impliqué ici. Cela pourrait signifier les hommes de bien. Cela pourrait juste signifier bien, modéré. Il connaît les priorités. Ce type sait ce qui est important. Juste, sain, tempérant, ayant la maîtrise de soi. Bon, nous avons parlé de tout ceci la dernière fois, mais les voici à nouveau. À présent, puis-je ajouter, il ne s'agit pas d'un conseil, et il ne s'agit pas d'un comité. C'est une communion d'hommes que Dieu a désignés, ceux que Dieu a qualifiés, ceux à qui Dieu a accordé des dons, qu'il a remplis de son esprit, qui sont donnés à l'Église locale pour diriger et enseigner cette Église. Et nous avons vu cela la dernière fois, dans 1 Timothée 5, 17, où il est dit que les anciens qui dirigent bien, ceux qui supposent que les anciens dirigent, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement, parce que cela, bien sûr, constitue la principale tâche de l'Église. C'est la chose la plus difficile qu'on doit faire. Cela exige le plus de discipline, le plus d'efforts, et le plus de travail, et de se battre contre Satan pour être un fidèle enseignant de la parole de Dieu. Et par conséquent, les anciens doivent être honorés. C'est un poste qui s'accompagne d'honneur. Dans Actes, chapitre 20, il y a deux versets que j'aimerais partager avec vous rapidement. Le verset 17, qui vous donne une petite idée de la manière dont ces anciens ont été désignés dans une ville, Éphèse. Paul va rencontrer les anciens d'Éphèse. Au verset 28 d'Actes 20, il est dit ceci, et ici il s'adresse aux anciens. Prenez donc garde à vous-même. La première chose qu'un ancien doit faire, un dirigeant au sein de l'Église, un enseignant de la parole de Dieu, celui qui dirige la communion des croyants, dans une situation locale donnée, c'est qu'il doit faire attention à lui-même. Il doit constamment évaluer sa propre vie et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. En tant qu'ancien, nous sommes responsables de veiller sur tout le troupeau. Souvent, c'est très facile de dire qu'on prie pour toute l'Église. Eh bien, c'est ridicule. Nous devons prendre individuellement en compte le troupeau que Dieu a donné, les désignant et les marquant, voyant ceux qui sont blessés, ceux qui ont un problème, ceux qui ont un besoin, et priant spécifiquement pour eux. Et nos anciens qui partagent ensemble se sont encore rencontrés ce matin même, pendant 1h15, avant qu'un quelconque parmi vous n'arrive, et nous avons prié. Nous avons prié ensemble ce matin pour vous, certains d'entre vous de manière spécifique, pour que Dieu travaille dans vos vies, selon votre besoin. Et non seulement devons-nous faire attention au troupeau, mais il dit, pourpêtre d'église du Seigneur. Et de quoi devons-nous nous nourrir? Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Et par conséquent, nous sommes responsables de prendre garde à nous-mêmes, en tant qu'anciens, de prendre garde aux troupeaux de Dieu, et de les marquer, voir ceux qui nécessitent nos prières, notre sollicitude, notre discipline, notre réprimande, nos reproches, notre amour, tous ceux dont ils ont besoin, et aller le faire pour eux. Et nous sommes également responsables, en tant que superviseurs, de paître le troupeau de Dieu. Ainsi donc, les anciens contrôlent la doctrine et la discipline au sein de l'Église. C'est une responsabilité sérieuse. C'est une grave responsabilité vis-à-vis de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité qui s'accompagne d'un grand honneur et d'une grande récompense pour les hommes qui sont choisis pour ce poste. Dans 1 Pierre 5, Pierre décrit un ancien comme suit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voici ce qu'il dit aux anciens. Écoutez ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau et veillez sur lui. Observez ce qui se passe. Lorsqu'une brebis était blessée, le pasteur, le berger, comme on l'appelait en réalité, allait et s'occuper de cette brebis. Prenez garde au troupeau de Dieu. Nourrissez-le. Veillez sur lui. Non pas par contrainte. Non pas parce que, eh bien, je dois le faire. C'est mon boulot et je vais m'y coller. C'est quand même désagréable, mais vous le faites. Non. Mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Ne vous contentez pas d'exercer votre ministère uniquement aux riches qui sont susceptibles. Vous savez, de jeter quelque chose sur votre route. Non, mais avec dévouement. Quiconque est dans le besoin, vous entrez directement en scène, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Vous ne dirigez pas avec une verge de fer, mais en étant les modèles du troupeau. Vous connaissez la meilleure manière de diriger? Soyez un modèle. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Si vous essayez de diriger les gens sans être un exemple, vous savez ce qui va arriver. Ils vont s'opposer à votre leadership. Vous devez les conduire en donnant l'exemple. Et puis il a dit ceci, et c'est formidable. Ça vaut la peine de le faire, les amis. Si vous êtes un ancien, cela vaut le coup à cause de ce verset. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est la couronne qui est promise à ceux qui sont chargés de veiller sur l'Église. Quelle promesse bénie! Et la chose merveilleuse au sujet de l'obtention de cette couronne, c'est que nous serons en mesure de la déposer au pied de Jésus-Christ, puisqu'elle lui appartient en réalité. Ensuite, il y a le deuxième poste, et nous y allons tout de suite. Acte 6.1. Vous vous souvenez que je vous ai dit que l'église de Jérusalem était conduite par les apôtres, mais finalement, le moment est arrivé pour eux de passer à autre chose. Et après plusieurs années, il y a eu des hommes dotés d'un caractère chrétien, suffisamment matures pour assurer la direction de l'église de Jérusalem et permettre aux apôtres de s'occuper d'autre chose. Et au chapitre 6 des Actes, ce moment est venu, et ils étaient prêts à ordonner des hommes capables de diriger au sein de cette même Église et s'occuper d'autres ministères. En ce temps-là, verset 1, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. L'une des responsabilités de l'Église était de prendre soin des veuves. Il y a donc un petit souci. Ils ont pensé que la plupart des provisions étaient données aux veuves juives. Juste un de ces petits ennuis dont les apôtres ne voulaient pas s'encombrer. C'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et au verset 2, ils ont décidé. Écoutez, il est temps de sortir de ces menus détails. Nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ainsi, verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » En d'autres termes, nous nous efforçons d'étudier pour vous communiquer une doctrine. Nous étudions la parole de Dieu pour la partager avec vous. Et c'est également nous qui devons venir ici pour vous servir le dîner, et courir de l'autre côté pour prendre soin de ceci, et courir ici pour faire ça. Et nous délaissons la parole de Dieu. Ils ont compris quelle était leur priorité. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils étaient chargés de donner de l'argent aux divers individus qui avaient des besoins, pour que les anciens puissent se consacrer entièrement à la parole de Dieu et à la prière. Nous voyons ceci au verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dans un sens, ils ont établi le modèle pour les anciens. C'est ce que les apôtres ont fait. Laissez-moi vous donner les qualifications d'un diacre dans 1 Timothée, chapitre 3 et verset 8. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, semeur. Cela ne veut pas dire une personne lugubre, ennuyeuse. Cela signifie quelqu'un de sérieux, qu'ils soient des hommes de parole. Il ne dit pas une chose à une personne et une autre chose à quelqu'un d'autre, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête, pas quelqu'un qui court après l'argent. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le caractère de Christ. C'est ce que cette déclaration signifie. Je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer. C'est quoi le mystère de la foi? Quel est le mystère de notre foi? Dieu en Christ, n'est-ce pas? C'est ça le mystère. À savoir que Dieu et l'homme faisaient un en Jésus-Christ, et conservant le mystère de la foi, dans une conscience pure, signifie vivre comme Christ. Très bien. Il doit ressembler à Christ. Verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. On ne prend pas n'importe qui pour le nommer diacre. On observe pour voir qui s'est montré digne, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ensuite, le verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il y a des standards pour être diacre. Si vous êtes diacre, vous devez les revoir. Et si vous répondez aux exigences et qu'on ne vous a pas encore nommé diacre, vous devriez être désigné diacre. Nous allons demander à Dieu de nous révéler votre nom pour que vous puissiez servir dans la capacité que Dieu vous a accordée de servir dans cette assemblée locale. Si vous êtes ici et que vous êtes un ancien, selon la Bible, et un diacre, selon la Bible, alors il nous revient de le déterminer par la prière et le jeûne, pour que vous soyez élevés à la position de service que Dieu a prévue pour vous dans cette assemblée locale, parce que nous avons besoin de votre leadership. Voilà les standards. Être respectable, éloigné de la duplicité, pas donné au vin, et sans penchant pour le gain malhonnête, semblable à Christ, sans reproche, mari d'une seule femme, et dirigeant bien ses enfants, et ainsi de suite. Rien sur l'enseignement, l'avez-vous remarqué? Parce que le ministère du diacre n'est pas un ministère d'enseignement. Le ministère du diacre consiste à gérer les services et les affaires de l'Église. Mais avez-vous remarqué? Il n'y a pas une seule exigence commerciale ici. Le candidat pouvait être nul en mathématiques. Ce n'est même pas un problème. La question est entièrement spirituelle. Dieu œuvre plus facilement à travers les hommes qui sont remplis de l'Esprit, qu'il ne le pourrait à travers des hommes brillants, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. De ce fait, chaque qualification est toujours ainsi. Par ailleurs, je crois aussi qu'il pourrait y avoir des diaconesses dans la Bible. Verset 11. Leurs femmes de même, et les femmes mentionnées dans ce passage pourraient faire référence aux diaconesses. Certains disent que cela se réfère aux épouses des diacres. D'autres pensent qu'il s'agit des diaconesses. Cependant, si vous lisez Romains 16, on a l'impression que Phobé y est désignée comme une servante, et le terme employé est le même que celui rendu par diacre. Il est donc possible que Phobé ait été une diaconesse, parce qu'il était nécessaire d'avoir quelques femmes pour aider les femmes qui étaient candidates au baptême, simplement pour les aider à s'habiller, et ainsi de suite. Il était nécessaire que les femmes s'occupent de faire la cuisine et de certains services en faveur des veuves. Il semblerait donc qu'il y ait eu des diaconesses pour travailler avec les diacres. Et au verset 11, elles doivent être honnêtes, non médisantes. Pas de diaconesses médisantes, sobres. Elles connaissaient elles aussi les priorités, fidèles en toutes choses. Voyez-vous, si vous parvenez à avoir ce genre de leadership à l'Église, mes amis, c'est que vous avez réussi et êtes prêts à partir. C'est donc ça le leadership. Et gardez à l'esprit que chaque dirigeant de l'Église n'est pas responsable devant la congrégation. Il rend compte à Dieu. À Dieu, c'est le leadership que Christ a donné à l'Église. Voilà, les diacres, les anciens, et peut-être les diaconesses, pour assister les diacres, c'est tout. Il n'y a pas d'organigramme. L'organigramme de l'Église, mes amis, est un cercle. Tout le monde est au même niveau. Nous sommes tous ensemble. Très bien. Nous en venons à présent au dernier point. La congrégation. Enfin, nous allons nous adresser à tous ceux qui ont dit « Oui, vous les diacres. Oui, allez-y, vous les anciens. Et maintenant, c'est votre tour. Nous allons aborder la congrégation à ce stade. Eh bien, le Saint-Esprit va vous parler. Et c'est ici que j'aimerais que vous commenciez à écrire, si vous n'avez pas encore commencé à prendre des notes. Très bien. Le devoir fondamental de l'Église est d'enseigner la saine doctrine. Le devoir fondamental du leadership consiste à être des enseignants de la doctrine et à appliquer la doctrine aux membres. Le devoir fondamental des membres concerne les personnes remplies du Saint-Esprit qui apprennent la doctrine et sortent pour en faire quelque chose. Vous êtes l'objet de tout le ministère que Dieu a conçu pour le leadership, afin que nous puissions communiquer, à vous qui êtes là-bas dehors, et un jour, peut-être, vous vous lèverez pour être un diacre, un ancien, selon ce que Dieu aura prévu, ou peut-être un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Mais c'est lorsque vous êtes fidèle dans de petites choses qu'il vous accorde de plus grandes. Nous arrivons donc au dernier niveau, la congrégation, et c'est vraiment ce sur quoi tout converge. C'est le troupeau qui est appelé à faire l'œuvre du ministère. Vous le savez si vous étiez ici, il y a de cela quelques dimanches soirs, que le leadership ne fait pas l'œuvre du ministère. Nous perfectionnons les saints pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Éphésiens 4:11. Le ministère vous revient. Notre rôle à nous consiste à prier et à enseigner la saine doctrine. Quant à vous, vous devez faire l'œuvre du ministère. Et nous allons vous montrer comment ça marche. À présent, il y a un verset. Laissez-moi vous le donner rapidement. Hébreux 13:17. Écoutez ceci. Voici votre devoir général en tant que congrégation. Le voici. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Cela ne devrait pas être un fardeau. On suppose cependant que le leadership de l'Église soit rempli du Saint-Esprit et soit conduit par l'Esprit de Dieu. Nous devons être obéissants parce qu'ils sont directement connectés à Dieu et qu'ils exercent un ministère de la part du Christ en tant que berger assistant. Nous nous soumettons à leur ministère en sachant qu'il s'agit d'un ministère qui vient de Dieu. Nous pourrions ne pas le comprendre. Nous pourrions être en désaccord avec ce qu'ils essaient de faire. Mais c'est à nous d'obéir. C'est ce qui fait que l'ordre qui règne au sein de l'Église soit un témoignage vivant pour le monde. Beaucoup de choses peuvent pourrir une Église et vraiment gâcher son témoignage. L'une d'entre elles, la principale, est un mauvais leadership, de faux enseignants, ceux qui manquent d'enseigner la doctrine, les églises qui sont construites sur des cacahuètes et des pop-corns, au lieu d'être fondées sur la parole de Dieu. Une autre chose qui nuit à une église, c'est une congrégation qui refuse de suivre ses dirigeants. Et par conséquent, elle se divise, elle se fissure et se fracture, et ainsi de suite. Et tout cela est exposé aux yeux du monde. Tout le monde devrait se retrouver dans la catégorie que l'Esprit de Dieu a prévue et se montrer fidèle et obéissant. Très bien. Donc, tout d'abord, le devoir général. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Et notre devoir est de vous instruire dans l'amour. Et nous sommes responsables devant Dieu si nous échouons. Car il veille sur vos âmes. Vous voyez, vous devez prendre conscience que vous êtes le fardeau de nos vies. Il y a des tas d'autres choses plus faciles à faire que de diriger au sein de l'Église du Christ et de s'occuper des questions spirituelles. Vous ne pouvez pas les laisser. Vous savez, vous êtes avec eux 24 heures par jour, 10 jours par semaine. C'est interminable. Nous veillons sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Nous ne pouvons pas travailler en tant que dirigeants dans la douleur. Nous le faisons avec joie. Nous devons prendre soin de vous et rendre compte à Dieu pour cela. Et votre rôle à vous est de vous soumettre à ceux qui vous dirigent. À présent, regardons plus spécifiquement les devoirs pendant quelques minutes. Le devoir d'un homme dans l'Église. Quelle est la responsabilité de l'homme dans la réunion de l'Assemblée locale? 1 Timothée 5:8. Et je vais juste dire ceci pour vous et laisser l'Esprit de Dieu vous enseigner. 1 Timothée 5:8. Voilà une indication fondamentale de la responsabilité d'un homme dans l'Église. L'homme est évidemment impliqué, comme nous le verrons par le pronom. Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, ici, il est question de ses parents, sa mère qui est veuve, ou sa femme et ses enfants, toute la clique. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et puis-je ajouter que cela concerne également tous ceux qui sont à votre charge, même si vous n'êtes pas de la parenté. et principalement ceux de sa famille. Il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce que la foi du Christ est construite sur l'amour. Elle est fondée sur le fait d'assumer ses responsabilités et de se montrer fidèle à accomplir son devoir. Et si vous n'êtes même pas capable de montrer au monde que vous êtes fidèle dans l'accomplissement de votre devoir et démontrer de l'amour à votre propre famille en sortant de la maison et en subvenant aux besoins de votre famille, alors vous niez la base même de tout ce sur quoi porte la foi. Maintenant, je suis bien conscient qu'il peut arriver qu'un homme soit sans emploi lorsqu'il est licencié. Et ceci et cela. Cependant, Dieu s'attend à ce qu'un homme chrétien, au sein de la communauté d'Église, travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, non pas de dépendre de l'aide sociale, à moins qu'il n'ait une espèce d'incapacité physique. Et dans ces cas, l'Église devrait prendre soin de lui, non pas d'être pris en charge par l'épouse qui travaille, et nous allons aborder son cas dans une minute, mais de subvenir aux besoins de sa famille autrement. C'est quelqu'un qui renie le principe même de la foi, qui est l'amour, la responsabilité et l'accomplissement de son devoir. Ensuite, au chapitre 6, verset 1. Ceci aborde un autre angle. Si vous avez un emploi, ceci s'adresse à vous. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, nous allons les appeler des employés. Autrement dit, vous travaillez pour un patron. Regardez leur maître comme digne de tout honneur. Servez votre maître et honorez-le. Peu importe qui est votre employeur, servez-le et honorez-le. Observez à présent celui-ci, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Une fois de plus, un mauvais témoignage à votre lieu de service constitue une désobéissance à votre obligation vers l'Église de Jésus-Christ. Vous devez servir votre employeur en l'honorant. Qu'il le mérite ou pas, n'est pas la question. C'est une question d'obéissance pour votre témoignage et pour le témoignage de Jésus-Christ. Verset 2, vous dites « Oh, super, moi, j'ai un patron chrétien. » Et observez ceci, verset 2. « Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, les patrons chrétiens, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. Cela signifie que si vous avez un patron chrétien, ce n'est pas une raison pour faire des gaffes. Cela ne veut pas dire que vous pouvez vous laisser aller, puisqu'il est chrétien et qu'il est à l'église, et vous le savez. Non. Mais regardez ceci. Mais qu'ils les servent d'autant mieux. Que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Autrement dit, si vous avez un patron chrétien, cela ne veut pas dire que vous devez vous laisser aller. Ça veut dire que vous travaillez avec d'autant plus de diligence que vous ne profitez pas de la situation. À présent, vous dites, est-ce important? Assurément. Regardez la fin du verset 2. Enseigne ces choses et recommande-les. Et je le fais. Nous devons être fidèles à notre employeur pour l'honorer pour le bien de notre témoignage. Si nous travaillons pour un chrétien, nous devons l'honorer davantage, étant donné qu'il est fidèle à Christ. Très bien. Il y a encore quelques devoirs pour les hommes. Tite 2:9, très rapidement. Les hommes, dans une minute, nous aurons fini avec vous, et nous passerons aux femmes. Et vous allez kiffer chaque mot. Tite 2:9, il est dit, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Il est question du chapardage. » Du vol de la caisse, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Vous savez, en menant une vie pieuse devant votre employeur, vous ajoutez en fait la vertu à la vertu. La doctrine de Dieu semble belle, mais lorsque vous menez une belle vie, vous accrochez en réalité des ornements sur la doctrine de Dieu. Votre employeur pourrait croire en Dieu, mais lorsqu'il voit votre vie pieuse, Dieu devient encore plus beau pour lui, parce qu'il peut le voir se manifester dans votre vie. Nous sommes donc appelés à orner la doctrine de Dieu. Quelle belle pensée! Ensuite, les hommes, d'un autre point de vue, nous avons vu que nous sommes appelés à enseigner. Juste là, dans Tite 2:2, il nous est dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dans 2 Timothée 2:2, il nous est demandé d'enseigner la saine doctrine. Et voici une bonne opportunité pour nous de reconnaître qu'il s'agit des hommes plus âgés qui sont à l'église. Vous êtes capables d'enseigner les hommes plus jeunes. Nous devons être sobres, respectables, dignes, connaître nos priorités, modérés, forts, fermes dans la foi, l'amour et la patience. Et ces trois choses sont vraiment importantes. La foi, l'amour, la patience. La foi est une attitude envers Dieu. L'amour est une attitude envers les hommes, et la patience est une attitude vis-à-vis des difficultés. Et nous devons être solides en chacun d'entre eux. Nous devons donc, en réalité, avoir presque les mêmes caractéristiques que celles d'un diacre. Ensuite, une autre chose qu'il dit au sujet des jeunes gens. En descendant au verset 6, « Jeunes gens, il s'agit des adolescents, les garçons, les jeunes gens. » exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Cela signifie qu'il faut avoir de la maîtrise de soi, être suffisamment sobre pour savoir ce qui est vraiment important. Et verset 7, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Et même les jeunes gens doivent connaître la doctrine. Il dit, « Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, c'est-à-dire digne, de sérieux et d'intégrité. » Second 21. Ensuite, au verset 8, « Que ta parole soit saine. C'est facile pour des gens de parler et de parler encore des choses qui n'en valent pas la peine. » Et donc, il dit, « Tes paroles doivent être saines et irréprochables. Tu dois être sincère. Tu dois te montrer digne. Ta doctrine doit être pure. Tu dois être un modèle de bonnes œuvres. Jeunes gens, nous devons être des modèles de ce que sont les standards de Dieu. Paul a demandé à Timothée de se montrer en exemple pour les croyants. Voilà donc le devoir de l'homme. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, sinon, il est pire que celui qui renie la foi. Il doit enseigner d'autres qui, à leur tour, enseigneront aussi d'autres. Il doit se montrer fidèle en termes d'obéissance à son lieu de travail vis-à-vis de son employeur. Et si son employeur est chrétien, il doit se montrer encore plus fidèle, si possible. Il doit aussi être sérieux, sobre, marcher dans la foi, l'amour et la patience. Il doit être équilibré et solide. Jeunes gens, nous devons être des modèles de croyants pour tout le monde. Nous devons mener une vie qui honore Dieu. Et nous devons être purs dans notre doctrine, être sérieux, sincère, et notre discours doit édifier. Eh bien, nous pourrions en dire davantage. Nous n'allons pas le faire. Rapidement. Le devoir des femmes. Qu'est-ce qu'une femme peut bien avoir à faire à l'Église? 1 Timothée 2:9. Et nous arrivons ici à l'habillement et à la tenue vestimentaire d'une femme. Vous dites, pourquoi est-ce que c'est là? Parce que Dieu voulait que vous le sachiez, tout simplement. Ça n'a pas été mis là pour régler la question du XXe siècle. Ça a été mis là parce que c'est le modèle. Très bien. 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes. Permettez-moi de revenir en arrière. Au verset 8. Il est dit une chose de plus au sujet des hommes. Il est dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Les hommes doivent constamment être en prière. » Et puis, il est dit au verset 9, « Les hommes, le modèle des hommes consiste à se rassembler pour la prière. Les femmes de même. Voici ce dont elles doivent être conscientes. Il est très facile pour des hommes d'être tout simplement très occupés à faire des choses, ou à se tourner les pouces, et etc. Ils doivent se concentrer sur la prière. Les femmes doivent se préparer d'une manière physique. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est une déclaration assez simple. Je crois que c'est le principe fondamental de la parole de Dieu en termes vestimentaires pour les croyants. Lorsque nous nous retrouvons pour la communion, nous devons être modestes. Maintenant, les gens me disent, « Pensez-vous vraiment ce genre de choses ? Aimez-vous cette jupe, celle qui est longue et fendue? Aimez-vous ce qui est court avec des plis, ou ce pantalon avec des trous dans les genoux? Ne me demandez pas cela, je n'y connais rien. Et tout change si vite. Ce qui importe, c'est la modestie. La Bible ne dit pas, il y a une règle selon laquelle ça doit descendre de 7 cm en dessous du genou. Non. Cependant, certaines choses sont assez évidentes. Certaines sont modestes et d'autres pas. Pour les croyants. Et cela ne veut pas dire que si vous amenez votre ami non sauvé à l'église et que vous venez pour entendre l'évangile, que nous avons une clique de garde là-dehors. Désolé, madame, vous allez devoir vous installer dans le bus jusqu'à la fin du service. Votre robe n'est pas convenable. Non, ce n'est pas l'idée. Ceci est réservé aux croyants. Des vêtements modestes, assortis de la crainte de Dieu. Vous savez ce que cela signifie littéralement en grec? Avec un certain sens de pudeur. Vous savez tout ce truc moderne au sujet de « Nous ne devons pas avoir honte de nos corps. » Je regrette, les amis. Depuis que le péché est entré dans le jardin, nous avons le droit d'avoir honte de la corruption de notre corps. Il est corrompu par le péché. La chair est sensible au péché. Et Paul déclare « Nous devons même avoir, en tant que femme, un certain sens d'eux. Ce n'est pas une sorte de traumatisme psychologique, extrême, mais juste avoir suffisamment de pudeur pour se montrer modeste. Et c'est important. L'idée de la sobriété est d'éviter les extrêmes. Je veux dire que l'Église n'est pas exactement l'endroit où l'on doit mettre des vêtements conçus pour se faire voir. Ce n'est pas l'objectif. Cela constitue une distraction pour ce que nous essayons de faire, et ce que l'Esprit de Dieu veut faire lorsque nous sommes distraits par la tenue vestimentaire d'un individu. Nous devons avoir des vêtements modestes, empreints de crainte divine et de sobriété. Nous évitons les extrêmes. Pas de tenue vestimentaire immorale pour se faire voir. Pas de, ceci est assez important, cheveux tressés. Pas de tresses. Cela fait probablement allusion à des cheveux tressés ou nattés, ou quelque chose de ce genre. Des cheveux tressés ou ornés d'or, de perles, ou quelque arsenal coûteux. À l'époque de Paul, il y avait des façons populaires de tresser les cheveux, de ce que nous comprenons, et de les enrouler tout autour. Et on y enroulait tout genre de perles et d'or. Eh bien, imaginez un pauvre gars assis parmi les autres croyants, et une dame qui vient s'asseoir devant lui, avec tout un coffre de trésors sur la tête. Et c'était désespérant. Le gars serait assis là en se disant, « Mince, cette perle vaut 89 drachmes, et cette autre là-bas, mon Dieu, il s'agit d'une. Regardez la taille de ce joyau là-bas. Et vous savez, et tout ce pourquoi il était venu là, était perdu. » Il n'y avait aucun moyen pour lui de recevoir le message en étant assis derrière un tel étalage et en étant préoccupé par une femme qui était vaniteusement entrée là pour afficher publiquement toute sa gloire. Et je veux dire qu'il dépensait des fortunes. Il est dit que certaines personnes avaient sur leur tête des ornements dont la valeur dépassait 9 000 euros. Il s'agit bien sûr d'une situation extrême. Et c'est ce dont il parle. Je ne pense pas que quelqu'un vous fera des problèmes si vous voulez mettre, disons, un ensemble de perles achetées chez Claire's. Écoutez, si vous avez une paire de boucles d'une valeur de 2 euros aux oreilles, ce n'est pas un souci. Je veux dire que nous ne cherchons pas à nous rendre ridicules. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le lieu indiqué pour cet étalage spectaculaire, une exposition de trésors en présence des personnes qui sont là pour adorer Dieu et partager la parole de Dieu. Nous sommes modestement vêtus ici pour éviter les vibrations qui distrait de ce que Dieu voudrait faire à travers son Saint-Esprit et sa parole. Les femmes doivent donc, par conséquent, faire très attention à la manière dont elles s'habillent, très modestement. C'est la question et c'est la réponse, et pas avec des coiffures qui constituent une distraction. Maintenant, venir ici avec des cheveux qui donnent l'impression d'avoir été peignés, avec un fouet à œufs, constitue la pire des distractions. C'est gênant, très gênant. C'est encore plus gênant que si vous en aviez fait quelque chose d'élaboré avec vos cheveux. Mais, bien évidemment, il y a un équilibre, et ce serait bien. Si nous voulons considérer que vous mettiez quelque chose de modeste en termes de bijoux, ce n'est pas le propos. Le fait est que, lorsqu'on entre dans l'extravagance, cela devient une distraction. Au verset 10, et voici une fin positive à ceci. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux dire que si vous êtes une femme pieuse, vous aurez certainement l'apparence d'une personne qui se préoccupe des choses pieuses, et non celle de quelqu'un dont le but est de se faire voir. Une personne pieuse ne se préoccupe pas de se mettre en scène. Et ensuite, le verset 11 nous dit autre chose au sujet des femmes, lorsqu'elles se réunissent. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Les femmes n'ont pas à prendre la parole pendant les réunions publiques. C'est le standard. Toutefois, les femmes doivent enseigner et instruire pendant des moments privés. Nous allons le voir dans un instant. Pas pendant le service public. Elles ne sont pas appelées à enseigner. Vous dites, croyez-vous en des femmes prédicatrices? C'est exactement ce dont parle ce verset. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12, plus précis. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bibliquement parlant, il n'y a rien de tel qu'une femme prédicatrice, aucune. Il n'existe rien de tel. Et nous voyons donc que le devoir d'une femme, au cours du service, est de se montrer modeste et de garder le silence. Il y a d'autres choses que les femmes doivent faire. Rapidement. Tite 2. Et nous allons conclure avec cela. Tite 2, verset 3. Les femmes âgées. Et il s'agit bien sûr des femmes plus avancées en âge. Âgé ne signifie pas nécessairement qu'on est décrépit. Cela veut juste dire qu'on est mûr. Et vous pouvez noter sur votre papier si cela s'applique à vous ou pas, et sans regarder autour de vous pour voir qui écrit. Verset 3. Les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Tellement important, n'être ni médisante. Vous savez ce que c'est ce terme en grec, partageur de scandale. C'est souvent très facile pour des personnes plus âgées qui n'ont pas tellement de choses pour s'occuper. Et même à l'époque, ils avaient le même problème. Et le téléphone n'avait pas encore été inventé. C'est très facile pour des personnes plus âgées de se retrouver à parler de tout ce qui se passe. Et parfois sans même réaliser, d'autres fois en réalisant. Elles commencent quelque chose qui devient un réel problème et un véritable scandale. Cela divise plus d'églises que toute autre chose à laquelle je puisse penser. Et c'est pourtant exactement ce que nous nous efforçons d'éviter dans l'unité de cette assemblée. Par conséquent, les femmes doivent veiller à ne pas être de fausses accusatrices, médisantes. Mais elles doivent se comporter d'une manière digne de Dieu, pas adonnée au vin. Et ça, c'est bien. Vous dites, une femme peut-elle enseigner? Quelle est la phrase qui suit? Qu'est-ce que c'est? Le verset 3, la dernière phrase. Mais enseigner ce qui est bien. Second 21. Bien sûr, elles sont appelées à être des enseignantes, mais pas pendant le service public. Des enseignantes de ce qui est bien. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Vous dites, oh, nous n'avons pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit avec les filles d'ici. Quelquefois, les gens viennent me voir. Avez-vous vu la robe que portait telle fille? Eh bien, les amis, vous savez, ce n'est pas mon domaine d'intervention. Je vais faire ce que je peux. Notre leadership fera ce qu'il pourra. Le fait est que les femmes plus âgées enseignent les plus jeunes. Si vous voyez une jeune fille et vous avez l'impression qu'elle manque de modestie ou qu'elle a besoin d'un conseil spirituel, c'est votre responsabilité. Les amis, les gens viennent me voir constamment et je suis sérieux, semaine après semaine. Pasteur, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Vous savez ce que je dis, cher membre? Rien du tout. Ce n'est pas mon ministère. Je vais faire ce que je peux dans le domaine où Dieu m'interpelle. Si je vois le besoin d'un individu, j'irai à lui. Mais si Dieu vous met quelqu'un à cœur qui a besoin d'assistance, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une ou deux personnes fassent tout avec tout le monde. Si vous ressentez qu'une jeune fille a besoin d'assistance et d'amour, et quelques encouragements et instructions, eh bien, votre obligation devant Dieu, c'est d'aller vers cette personne. Pourquoi pensez-vous que l'Esprit de Dieu vous a permis d'être informé de cela? C'est ce en quoi consiste le fait de se rendre mutuellement service, les uns aux autres. Et j'apprécie le fait que certains d'entre vous le fassent. C'est formidable. Vous avez cette responsabilité dans l'amour de guider les jeunes femmes, et d'être des modèles, de donner l'exemple. Et voici ce que vous êtes supposé leur enseigner. C'est bien. Apprenez aux jeunes femmes à, j'aime ceci, aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues. Observez à présent celui-ci, à se montrer discrète, mener une vie pure, être chaste. Observez celui-ci, occupé, ou, à la maison, occupé aux soins domestiques. Vous dites, vous voulez dire que les femmes plus jeunes sont supposées rester à la maison? C'est ce qui est dit. Et ensuite, oh, celui qui suit est formidable. Oh, que c'est bien. Qu'elles soient bonnes, soumises à leur mari. Le pasteur n'est pas chargé de courir un peu partout pour enseigner tout à tout le monde. C'est votre responsabilité, selon que Dieu conduit, s'il vous met quelqu'un à cœur. Qu'est-ce que vous allez enseigner aux jeunes femmes? Très bien, reprenons-le. À aimer leur mari et leurs enfants. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Oh, il y a tellement de jeunes femmes qui se demandent pourquoi leurs enfants sont si difficiles à discipliner et pourquoi ils ont tant de problèmes. Et le souci, c'est qu'elles ne sont jamais à la maison avec eux. Elles ne sont jamais à la maison avec eux pour leur enseigner les principes qui sont spirituels et fondamentaux pour leur propre mode de vie. Et ensuite, à être bonne. À être bonne, c'est la bienveillance. C'est la bonté bienfaisante, soumise à leur mari. Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mon ami, ton témoignage individuel détermine le témoignage de Jésus-Christ dans le monde. Le savez-vous? Eh bien, et ensuite il poursuit pour aborder quelques devoirs d'ordre général, comme la prière, l'enseignement, et le fait de vivre son ministère, de donner, de partager et de prêcher l'Évangile. Et vous pouvez les étudier vous-même. Père, Nous te remercions de ce que tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, aide-nous à faire quelque chose au sujet de ces principes, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.